الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة التاسع من شهر رجب من عام 1434. Donc, dans cette soirée, celle du 18 mai 2013, نَفْتَحُ كِتَابًا جَدِيدًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. On va ouvrir un nouveau livre, Inch'Allahu, Tabaraka wa Ta'ala, qu'on va essayer d'étudier ensemble, et on demande à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, نَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَرْزُقَنَا الْإِخْلَاسِ وَأَنْ يُسَدِّدَ أَقْوَالَنَا ويصلح أعمالنا ويفقهنا في الدين. On demande à Allah de nous donner la sincérité et de faire de nos paroles des paroles justes et qu'il nous aide à suivre la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous instruire dans sa religion. Le livre qu'on va lire ensemble inshallah ta'ala s'intitule en arabe Al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa 'ala kulli muslimin wa muslima. Et la traduction la plus rapprochée qu'on pourra donner sera les obligations dont la connaissance est impérative à chaque musulman et musulmane. Le titre du livre qu'on va lire ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Al-Wajibat, fa-hadihi al-umur allati naqra'uha hiya min al-Wajibat. Fa-la-budda min al-qiyami biha. ومن قام بها فهو مأجور ومن أهملها وتركها فهو آثم يعاقب على تركها. Donc ces choses-là sont des obligations, ce qui veut dire que il est obligatoire à chaque musulman et musulmane de mettre en pratique ces choses-là, ce qui veut dire que celui qui délaissera ces choses-là tombe dans le péché et dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle la suite du titre est Al-Mutahattimat ou Al-Ma'rifa. Al-Mutahattim ou Al-Wajib. Al-Wajibat, Al-Lati, Yajibu Ma'rifatuha. Donc, les obligations, c'est-à-dire les obligations religieuses, dont la connaissance est impérative, elle est obligatoire. Étant donné que ces choses-là sont obligatoires, les connaître est aussi une obligation. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. Et ce sans quoi on ne peut mettre en pratique l'obligation est une obligation. Et ici, pour mettre en pratique ces choses-là, il faut les connaître. Donc on a deux hukm, on a deux jugements dans ce titre. Le premier, c'est le jugement de ces choses-là, elles sont obligatoires. Le deuxième, c'est le jugement de leur apprentissage. Leur apprentissage est obligatoire. Pour qui c'est obligatoire ? Ala kulli muslimin wa muslima. À chaque musulman et musulmane. Qu'il soit un homme ou une femme. Grand ou moins grand. Petit. Riche ou pauvre. Malade ou en bonne santé. À partir du moment où il est une créature d'Allah Azza wa Jal et qu'il répond aux conditions pour être pris en compte par les obligations religieuses, il a l'obligation formelle de connaître ces choses-là pour les mettre en pratique. Ala kulli muslimin wa muslima ay min al-mukallafin. Al-mukallaf huwa al-baligh al-aqil. C'est-à-dire, ces choses-là sont obligatoires à chaque musulman et musulmane parmi les responsables d'entre eux. C'est-à-dire ceux qui sont responsables religieusement parlant. C'est-à-dire ceux qui sont pubères et doués de raison. Fa al-majnun la yajibu alayhi hadhihi al-umur. Yarhamukallah. Celui qui a perdu la raison n'est pas concerné par les obligations religieuses. Wa alladhi la yablugh aw lam yablugh ba'd, et celui qui n'a pas encore la puberté n'est pas concerné non plus par les obligations religieuses. La preuve en est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rufi'a al-qalam an thalatha, la plume a été levée sur trois personnes. Al Majnoun As-Sabiyu Hatta Yablu, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Wal Majnoun Hatta والنائم حتى يفيق, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se lève, se réveille. والمجنون حتى يعقل, et le celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est-à-dire que les obligations religieuses concernent ceux qui sont doués de raison et qui ont atteint la puberté. فكيف يبلغ الإنسان, comment la personne atteint la puberté? Amma ar-rajul bi ahad hadhihi al-umur al-thalatha, quant à l'homme, avec une de ces trois choses-là. Premièrement, dhuhuru ash-sha'r fi al-'ana, l'apparition de poils qui poussent sur le pubis, le bas du ventre. Deuxièmement, khuruj al-mani bi shahwa, la sortie du spermatozoïde avec désir, avec plaisir, avec jouissance. Troisièmement, bulugh 15 aman. Troisièmement, s'il n'y a pas une de ces deux choses-là, 15 ans. Dès qu'il arrive à 15 ans, il est pubère. S'ajoute à ça pour la femme, al-hayd, les règles. Faman kana haluhu kadhalik, celui qui est dans cette situation est concerné par les obligations religieuses. Hadhihi al-umur man ta'allamaha كانت له سببا في دخول الجنة. Ces choses-là, celui qui les apprend correctement et les comprend et les met en pratique, elles seront pour lui la cause de son entrée au paradis. ومن أهملها وترك دراستها كان سببا في دخول النار والعياذ بالله. Et celui qui n'apprend pas ces choses-là et donc qui les délaisse aura fait une cause pour qu'il entre en enfer, qu'Allah nous en préserve. À partir de là, vous voyez l'importance de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle on veut des feuilles et des stylos. On veut des gens qui apprennent et qui écrivent. Fini les cours de vacances. On vient, on s'assoit, on écoute, et après, quand on part, on a tout oublié. Là. Parce que quand la personne, dans cette dunya, elle veut devenir médecin ou ingénieur, pensez-vous qu'elle ne prend pas note ? Quand elle est à l'université ou à l'école, elle n'écrit pas. Il a lam yaktub, la lan yakuna muhandisan aw tabiba. Il ne pourra pas être ingénieur ou médecin sans écrire. Fa kayfa turidu an takhruja min an-nar bidun kitaba? Comment veux-tu sortir de l'enfer alors que tu n'écris pas? Donc à partir de là, à partir du cours prochain inshallah, je vais voir beaucoup plus de feuilles et beaucoup plus de stylos. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à mettre en pratique notre din avec la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ce livre-là, qui est-ce qui l'a écrit? C'est une question à laquelle il faut répondre. Ce livre-là, en fait, c'est moi qui vais répondre, inshallah. Ce livre-là, c'est un résumé de plusieurs paroles du Cheikh Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi, Abdel Wahhab, rahimahullah. Dans tous ses livres, il a parlé du droit d'Allah sur ses serviteurs, Azza wa Jal, que ce soit dans le livre Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, ou bien Al-Qawa'id al-Arba'a, les quatre règles, ou bien Kitab al-Tawhid, et bien d'autres livres encore, qui traitent du monothéisme, du Tawhid, l'adoration d'Allah, pour laquelle Allah nous a créé, subhanahu wa ta'ala. Il y a un shir qui s'appelle Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah, qui a rassemblé ces paroles du shir, jama'a min aqwal al-shir min kutubihi al-mukhtalifa wa ja'a wa samma hadha al-jama' al-wajibat al-mutahattimat. Donc il a résumé et rassemblé plusieurs paroles concernant l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il en a fait un livre concis qu'il a nommé les obligations, donc le titre qu'on vient de voir. Donc parmi les choses qui se trouvent dans ce livre, incha'Allah ta'ala, premièrement, nous allons voir les trois bases de la religion d'Allah. Al-usul al-thalatha, mukhtasaran, en résumé. Ensuite, nous allons voir asluddin wa qa'idatuhu, la base du din et son fondement, le plus grand fondement du din. Ensuite, nous allons voir shurut la ilaha illallah, les conditions de la parole la ilaha illallah. Plus loin, nous allons voir, inshallah, at-tawhid wa aqsamu, le monothéisme et ses différentes catégories. Ensuite, nous allons voir, inshallah, ash-shirk wa aqsamu, l'association et ses différentes catégories. Ensuite, nous allons voir al-kufr wa aqsamu, la mécréance et ses catégories. Puis, al-nifaq, l'hypocrisie, avec ses catégories. Aussi, al-tarut, selon, on va le voir dans l'explication du livre, et ses catégories. Et tout cela, preuve à l'appui du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le musulman se doit de connaître ces choses-là, car il ne peut s'en passer. Al-insan la yanjou minan nar illa bil iman billah. Le croyant ne peut être sauvé du feu de l'enfer qu'avec la foi en Allah azza wa jal. Wal iman billah la yakunu illa bil ilm. Et la foi en Allah tabaraka wa ta'ala ne vient qu'avec la connaissance. Et à ce sujet, le Cheikh a donné une parole très importante concernant l'obligation de l'apprentissage de la connaissance. Il dit, قال الشيخ تميمي رحمه الله اعلم أن طلب العلم فريضة. Sache que l'étude de la science est une obligation. وأنه شفاء للقلوب المريضة. Et sache que l'étude de la science est une guérison pour les cœurs malades. وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. Donc plus loin il dit, et la chose la plus importante qui incombe au serviteur d'Allah Azza wa Jal est la connaissance de sa religion et sa mise en pratique, car sans la connaissance de la religion et son application, ou plutôt car la connaissance de la religion et son application sont une cause pour entrer au paradis, alors que l'ignorance dans la religion et l'abandon de la quête de la science est une cause pour entrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais il faut savoir répondre à une question. لِمَذَا نَتَعَلَّمُ الْعِلْمِ لِمَذَا نَتْلُبُ الْعِلْمِ. Pourquoi on recherche la science? Pourquoi on veut connaître notre religion? Et moi, j'attends votre réponse. Abdullah. On cherche l'agrément d'Allah. Pour pas tomber dans l'ignorance. Nu'man.
Pour enlever notre ignorance.
Pour enlever l'ignorance. Sami.
Pareil.
Abdelaziz.
Préserver du mal.
Pour se préserver du mal. Abdelkarim.
Pour adorer comme il se doit Allah
Azzawajal. Pour adorer Allah Azzawajal comme il se doit. Mahdi.
Pour mieux connaître Allah.
Pour mieux connaître Allah.
Pour mettre en pratique et la propager.
Pour mettre en pratique et la propager.
Pour le visage d'Allah.
Pour le visage d'Allah Azzawajal. Ibrahim.
Pour tout ça.
Khalid. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Al-Asl. Al-Asil. في طلب العلم نيل مرضات الله هذا هو. La base, le fondement de base pour laquelle le musulman apprend la religion d'Allah, c'est pour arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'autre que ça. C'est la base de tout. فإذا كان الإنسان يتعلم العلم يقول أتعلم حتى أدعو فقد أخطأ الطريق بل تتعلم لترضي الله عز وجل وتدعو لترضي الله عز وجل. الدعوة وسيلة وليست غاية. الغاية مرضاة الله عز وجل. L'apprentissage de la religion, la finalité ou le but de l'apprentissage de la religion, c'est d'arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui apprend pour un autre but que ça s'est trompée de chemin, elle a fait erreur, et c'est pour ça qu'elle va mal apprendre. Elle va apprendre des choses, elle va les mémoriser, mais elle ne va pas les comprendre. Elle ne va pas savoir les mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'on apprend notre religion pour arriver le jour du jugement dernier et qu'Allah Azza wa Jal nous dise Ana radin ank, je suis satisfait de tout. C'est juste pour ça qu'on apprend. On est venu s'asseoir ici pour qu'Allah soit satisfait de nous, pour qu'Allah nous aime. Subhanahu wa ta'ala. C'est la base de tout. La personne qui dit j'apprends juste pour faire da'wah, juste pour propager, et rien de plus que ça, c'est tromper de chemin. Car le prêche, da'wah, c'est un moyen, ce n'est pas un but. C'est un moyen d'avoir l'agrément d'Allah. Le but, c'est l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va entrer, incha'Allah, dans le début de ce livre. بداية الكتاب البسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم. Premièrement, lorsqu'il entre et entame ce livre, il commence par dire بسم الله الرحمن الرحيم, ce qu'on appelle en arabe البسملة. Il a commencé son livre par البسملة car c'est légiféré par Allah, مطلوب شرعا البداء البداءة بالبسملة, de commencer les choses par le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Limada, pourquoi? لأن الإنسان لا يفعل شيئا إلا إذا أعانه الله ويعينه الله عز وجل إذا بدأ بسم الله تعالى. Car la personne ne peut mener à bien une chose qu'avec l'aide d'Allah. Et quand elle dit بسم الله, elle demande l'aide d'Allah. ومعنى بسم الله أي أستعين بالله أي أطلب العون من الله. Le sens de بسم الله c'est je demande l'aide d'Allah, je recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on recherche l'aide d'Allah? Car tu ne peux rien faire si Allah ne t'aide pas, rien du tout dans ta vie. أنت لست بشيء, tu n'es rien dans ta vie sauf si Allah t'accorde son aide subhanahu wa ta'ala. ولما كان الأمر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بسم الله عز وجل في في شأنه كله. Et puisqu'il en est ainsi, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام commençait tout ce qu'il faisait par le nom d'Allah عز وجل. Pourquoi? Pour qu'Allah l'aide تبارك وتعالى. Et ici l'auteur du livre commence par le nom d'Allah pour qu'Allah lui donne son assistance, pour que ce livre soit mubarak, soit béni. والاستعانة تكون لأمرين. البسملة, le fait de commencer par le nom d'Allah, se fait pour deux choses. أولا لطلب البركة من الله, ثانيا لطلب الإعانة من الله عز وجل. Premièrement, pour qu'Allah mette البركة, le bien et la bénédiction dans cette chose que la personne va faire. Deuxièmement, pour qu'Allah l'aide afin qu'elle puisse mener à bien cette chose-là. البسملة, c'est un verset de toutes les sourates du Coran, sauf une. Allah Azza wa Jal bada'a jami'a suwar al-Qur'an bil basmala illa surah wahida. Allah a commencé tous les versets du Coran avec le basmala sauf une sourate. Tous les sourates du Coran, sauf une, laquelle? Sourate al-Tawbah. لماذا؟ لأنها تابع للأنفال. Pourquoi? Car elle est considérée comme étant la suite de la sourate qui vient avant, le butin. Sourate al-Anfal. وهي جزء من آية في سورة النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. C'est une partie d'un verset se trouvant dans sourate al-Naml, les fourmis, lorsque Suleyman a envoyé une lettre à la reine de Saba pour l'appeler à l'adoration d'Allah, il a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, كان إذا راسل العظماء يدعوهم إلى الإسلام يبدأ بالبسملة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres aux grandes personnalités pour les appeler à l'Islam, il commençait ses lettres par al-basmala. كان يأمر بالكتابة لأنه مي لا يعرف الكتابة. Il ordonnait à ses compagnons d'écrire car ils ne savaient pas écrire صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واستقر عمل المصنفين على البداءة بالبسملة. Et l'imam ibn Hajar dit à partir de là, les auteurs de livres parmi les savants se sont habitués à commencer leur livre par Al-Basmala, pour les choses qu'on vient de citer. Bismillah, au nom d'Allah, ay, aktubu bismillah. C'est-à-dire, j'écris au nom d'Allah. Et wa idha akalta, akulu bismillah. Quand tu manges, tu dis bismillah, c'est-à-dire, je mange au nom d'Allah. Wa idha kharajta min baytik, ay, akhruju bismillah. Et quand tu sors de chez toi et tu prononces le nom d'Allah, cela veut dire, je sors au nom d'Allah. Ay, akhruju min bayti wa ana astaeenu Allah ala qada'i hawa'iji kharija bayti. C'est-à-dire, je sors de chez moi en prononçant le nom d'Allah pour qu'Allah fasse de moi quelqu'un de béni, qui réussisse, et pour qu'Allah m'accorde son aide dans tout ce que je vais faire. Et à partir de là, on voit l'importance de l'basmala. Il dit, al-usul al-thalatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Il dit, premièrement, les trois fondements qu'il est obligatoire à chaque musulman et musulmane de connaître. Donc ici, le premier sujet qu'il va entamer concerne ce qu'on appelle les trois bases de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne l'information qu'il est obligatoire à chaque musulman de connaître ces trois bases. فَمَا هِيَ الْأُصُولُ. Qu'est-ce que veut dire le mot « asl » dans la langue arabe ? الْأُصُولُ جَمْعُ asl. الْأَصْل dans la langue arabe هُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَمَا مِنْ بِنَاءٍ إِلَّا وَلَهُ أَصْل وَلَا يَقُومُ بِنَاءٌ إِلَّا عَلَى أَصْل فَإِذَا إِنْ عَدَمَ الْأَصْل إِنْ عَدَمَ الْبِنَاء. Donc, l'asl, ce qu'on appelle le fondement ou la base, c'est une chose sur laquelle on construit. Il n'y a pas une seule construction qui ne tienne pas sur des bases, ce qu'on appelle les fondements, les piliers qui se trouvent en dessous de la terre. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a des bases sur lesquelles elle repose. Et quand on dit des bases, on veut dire par là que la personne qui connaît ces bases aura une religion forte et une construction élevée. Et alors que la personne qui ne connaît pas ces bases et qui ne les met pas en pratique aura une religion faible. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens dévient du chemin d'Allah Azza wa Jal ou ne l'empruntent même pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de base. Et sans base, on ne peut pas suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas élever une construction religieuse sans base. D'où l'importance de ces trois choses-là. Comment on sait que ces trois choses-là sont des bases de la religion d'Allah ? كيف عرفنا أن هذه الأمور الثلاثة هي أصول الدين. La réponse, nous allons la voir incessamment sous peu, incha'Allahu ta'ala. Ces choses-là sont obligatoires à chaque musulman et musulmane, bien sûr, parmi les personnes responsables religieusement, les personnes douées de raison qui ont la puberté, comme on a pu le voir. Al-aslu, هذه الأصول, ces trois fondements sont وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ces trois bases sont la connaissance que le serviteur doit avoir concernant son Seigneur, sa religion et Mohammed, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, on voit أَنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَائِمٌ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ مَعْرِفَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ دِينِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ. Ces trois choses-là sont la connaissance d'Allah, de sa religion et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ عَرَفَ هَذِهِ الْأُصُولِ وُفِّقَ لِلْخَيْرِ كُلِّهِ. Celui qui apprend ces trois fondements, qui les connaît, Allah lui aura alors accordé son assistance pour tout le bien. وَمَنْ جَهِلَهَا فَهُوَ الْمَخْذُولِ. Et celui qui ignore ces trois fondements aura été abandonné par Allah, subhanahu wa ta'ala. La première, c'est la connaissance d'Allah, azza wa jal. Il est obligatoire à chaque musulman de connaître Allah, tabaraka wa ta'ala. يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. De connaître Allah, tabaraka wa ta'ala, hatta la yatakallama anhu bi jahl, afin qu'il ne dise pas sur Allah des choses infondées, des choses mensongères, des choses fausses. Allah aime cette chose-là alors qu'Allah ne l'aime pas. Allah n'aime pas cette chose-là alors qu'il l'aime. Allah a légiféré cette chose alors qu'il ne l'a pas fait. Allah a interdit ça alors qu'il ne l'a pas fait, à cause de l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parler sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science fait partie des plus grandes injustices et des pires péchés. Allah azza wa jalla a dit: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Dit: mon Seigneur m'a interdit les turpitudes apparentes et cachées, وَالْإِثْمَ et les péchés, وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ l'injustice, الظلم, وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا et que vous n'associez à Allah ce sur quoi vous n'avez aucune connaissance, وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Qui est celui qui dit sur Allah ce qu'il ne sait pas? Celui qui ne connaît pas Allah, tabaraka wa ta'ala. À partir de là, on voit l'importance de connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Si on t'interroge en te disant, qui est ton Seigneur? فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهِ الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Répond: mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de tous les mondes, l'ensemble des mondes, de par ses bienfaits. C'est lui ma divinité que j'adore. Personne en dehors de lui n'est digne d'être adoré. T'as tout compris? Tu as tout compris dans cette phrase. Tu as tout compris? N'aie pas peur de répondre. Tu as tout compris dans cette phrase. Pour toi, tu as tout compris. On va étudier cette phrase-là. Et de cette petite phrase-là, on va sortir des versets, des hadiths. Comme ça, on va voir comment la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Premièrement, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Premièrement, pardon, si on t'interroge, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Juste avant de rentrer dans ça, كَيْفَ عَرَفْنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْأُصُولَ الثَّلَثَ أُصُولَ الدِّينَ. Comment avons-nous su que ces trois choses-là, la connaissance d'Allah, Azza wa Jal, du prophète Mohammed, et de l'islam, de la religion, sont les bases même de la religion? Al-Jawab, la réponse, fi hadithi al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, alladhi rawahu l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Ahmed rapporte un hadith authentique, selon le compagnon al-Bara ibn Azib, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbarana amma yaqa'u ba'da al-maut lil-insan fi qabrihi. Le prophète ﷺ nous a informé sur ce qui va avoir lieu pour chaque personne dans sa tombe après sa mort. Hadith al-Bara, comme il est appelé. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ. Deux anges vont lui venir. Et ces deux anges, dans un autre hadith, on apprend qu'ils sont appelés Munkar et Nakir. Ces deux anges viennent à chaque personne après la mort dans sa tombe. Personne ne pourra éviter ça. Ces deux anges viennent et interrogent la personne en lui disant: فَيُجْلِسَانِهِ وَيَنْتَهِرَانِهِ وَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ. Qui est ton Seigneur? وَمَا دِينُكَ. Quelle est ta religion? وَمَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et à ce moment-là, les gens vont se diviser en deux. Al-mu'min alladhi yuthabbituhu Allah wa al-kafir aw al-fajir alladhi yakhdhuluhu Allah. Le croyant à qui Allah donnera la fermeté, il répondra. Et le mécréant et le pervers qui sera privé de la bonne réponse. Et le croyant dira: Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, wa dini al-islam, وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. Il répondra correctement. Et alors les deux anges lui diront: وما عملك؟ ما عملت حتى تعرف الجواب؟ Qu'as-tu fait pour connaître la réponse? Il dira: قرأت كتاب الله وأفأمنت به وصدقت. J'ai lu le livre d'Allah, cru en ce qui s'y trouvait comme information et attesté de la véracité de cette parole, de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal sera satisfait alors de lui. Alors que l'abd al-kafir ou al-fajir va répondre Hahim, 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 Hahim. C'est un mot que la personne qui souffre du regret le plus grand, celui qui fait le plus de mal, dit dans la langue arabe. Hahim, Hahim. C'est une sorte de une manière de dire malheur à moi, malheur à moi, j'ai tout raté, j'ai perdu, j'ai échoué, j'ai tout perdu, malheur à moi, j'ai vécu toute ma vie et je n'ai pas connu ces choses-là, malheur à moi, je vais le regretter, je vais dans le feu, Allah va me punir, malheur à moi. Voilà ce que cette personne va répondre. Plus loin, cette même personne dira سَمِعْتُ النَّاسِ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ. J'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répété. Je l'ai répété sans connaître le sens. J'ai écouté les gens et j'ai répété la même chose qu'eux et je ne savais pas ce que cette chose voulait dire. Je n'ai pas cherché à connaître le sens. Voilà le sort de la personne qui ne connaît pas ces trois fondements. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Nasallahu alayhi wa sallam wal afiya. Donc le premier fondement, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc si on te dit man rabbuk, qui est ton Seigneur? الرب من أسماء الله عز وجل. الرب c'est un des noms d'Allah تبارك وتعالى. يدل على ربوبية الله. وربوبية الله أفعال الله المختصة به كالرزق والخلق والتدبير والملك وغير ذلك. الأمور التي لا يفعلها إلا الله تكون في ربوبية الله. Le nom رب est un nom d'Allah Azza wa Jal. En français, il est traduit par Seigneur. Rab veut dire celui qui a l'attribut de la Rububiyya. La Rububiyya, c'est un mot que l'on donne à tous les actes que seul Allah peut faire. Et tous les actes que seul Allah peut faire, subhanahu wa ta'ala, se résument dans trois. La possession, al-mulk. Deuxièmement, al-khalq, la création. Troisièmement, al-tadbir. La gérance. Le seul à avoir créé est Allah. Le seul à posséder tout est Allah. Et celui qui administre et qui gère chaque jour ce qui se fait est Allah. Et à travers ces trois choses-là, on retrouve toutes les choses que seul Allah peut faire. Par exemple, le fait qu'Allah Azza wa Jal donne la vie ou la mort. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut. Le fait qu'Allah accorde la guérison, al-shifa, inzal al-matar. Le fait de descendre, de faire tomber la pluie du ciel et toutes les choses que seul Allah peut faire sont contenues dans le nom Ar-Rabb. Ar-Rabb, le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle Nara fi al-Qur'an fi ad'iya fi ad'iyat al-anbiya wa adhkarihim annahum da'iman yad'una Allah Rabb, Rabb, Rabb. Limadha? لأنهم يعلمون معنى هذا الاسم كأنهم يقولون يا من لا يفعل هذه الأمور إلا أنت وحدك لا شريك لك ندعوك. Et ce nom-là, on le retrouve dans le Coran, dans les invocations qui sont faites par les prophètes d'Allah Azza wa Jal. À chaque fois, ils disent Ya Rab, Ya Rab. Pourquoi? Car ils comprennent le sens de ce nom et que ce nom désigne toutes les choses que seul Allah peut faire. Donc, pour chaque chose que tu demandes, ce nom convient à ta demande. هذا الاسم يناسب كل طلب. تطلب الشفاء يا رب اشفيني من ربوبية الله الشفاء إلى غير ذلك. Tu demandes à Allah la guérison, ce nom convient. Car dans ce nom, il y a les choses que seul Allah peut faire et parmi ces choses, la guérison. Donc le nom Rab est un nom d'Allah Azza wa Jal qui est immense. Si on te dit من ربك, qui est ton Seigneur? فقول ربي الله. Réponds, mon Seigneur est Allah Azza wa Jal. Wallahu tabaraka wa ta'ala ismun min asma'ih. Wa huwa aslul asma. Le nom Allah Azza wa Jal est un de ses noms et c'est la base de tous ses noms. Les savants disent comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et comme l'explique le Cheikh Abd al-Razzaq Ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah, que le nom Allah est la base de tous les autres noms et que le nom Allah tabaraka wa ta'ala contient de manière globale ce qui va être détaillé par tous les autres noms. C'est-à-dire que tous les autres noms sont comme un tafsir, une explication détaillée du nom Allah. Wadih ? C'est clair ? Et c'est pour ça qu'Allah a dit « Walillahi al-asma'ul husna » et à Allah appartiennent les noms les plus parfaits. Subhanahu wa ta'ala. Ils reviennent tous à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ma ma'na Allah ? Que veut dire Allah ? Le sens global, c'est ذُلْ أُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ. Celui qui mérite l'adoration seul et sans associé sur toutes ses créatures. Le nom Allah, à la base dans la langue arabe, vient de Al-Ilah. Aslu Allah, Al-Ilah. À la base, c'est Al-Ilah. وَهُوَ الْمَعْبُودِ. Al-Ilah, c'est la divinité, celui qui est adoré. Puis, Al-Hamza, la lettre Hamza a été effacée. C'est devenu Allah. Puis, Al-Lam Fukhimat. On a aggravé la lettre Lam, c'est devenu Allah. Donc à la base, Allah c'est Al-Ilah. Ensuite, Allah, ensuite Allah. Et à travers ça, on voit que le nom Allah vient de Al-Uluhiyya. Wahi Al-Ibadah. Fama'na Allah, Al-Ma'boudu Bihaq. Donc à travers ça, on voit que le nom Allah vient de Al-Ilah, Al-Uluhiyya, c'est-à-dire la divinité, l'adoration. Donc le mot Allah, le nom Allah veut dire celui qui est le seul à mériter l'adoration sur toutes ses créatures. Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, Azza wa Jal. Il dit, Alladhi Rabbani, celui qui m'a éduqué, wa Rabba jami' al-alamin bi ni'matihi, et qui a éduqué toutes ses créatures de par ses bienfaits. لأن هذا الاسم الرب فيه كذلك التربية. Car il y a dans ce nom, الرب, ce qu'on appelle en arabe at-tarbiya. At-tarbiya, c'est l'éducation. كيف يسمى الأب في البيت? Comment on appelle dans la langue arabe le père dans la maison, le chef de la famille? رب البيت. رب البيت. لماذا? لأنه صاحب التربية في هذا البيت. On l'appelle en arabe رب البيت. Pourquoi on l'appelle le rab de la maison? Pourquoi? Parce que le mot rab, à la base, vient aussi de tarbiya, l'éducation. Donc, celui qui éduque sa famille, c'est le rab de sa famille. لكن هذا الاسم يذكر في الله عز وجل منفردا وإذا ذكر في عبد من عباده مضافا لابد. Mais ce nom-là, quand il est cité concernant Allah, il est cité seul, rab. Il est cité aussi, annexé, Rabbul Alamin, Rabbul Samawat, le Seigneur des cieux, de la terre, le Seigneur des mondes. Et quand on parle du serviteur d'Allah, on ne doit jamais dire Rabb sans rien dire avec. On doit dire Rabbul Bayt, Rabbul Usra, le Rabb de la maison, le Rabb de la famille. Mais Rabb tout court n'est utilisé que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. At-tarbiya, l'éducation d'Allah, azza wa jal. Allah nous éduque. Subhanahu wa ta'ala. Allahu yurabbi ibadah. Il éduque ses serviteurs. Wa tarbiyatullahi azza wa jal takunu ala qismain. L'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs se divise en deux. Ma yuqalu anha at-tarbiyatul 'ammah, ce qui est appelé l'éducation générale, globale. Wa ma yuqalu anha at-tarbiyatul khassah, et ce qui est appelé l'éducation particulière. Amma at-tarbiyatul 'ammah, quant à l'éducation générale, fa hiya tarbiyatullah 'azza wa jalla li jami'i 'ibadihi wa jami'i khalqihi al-mu'minuna minhum wal-kafirun hatta al-hayawanat. Donc l'éducation générale concerne toutes les créatures d'Allah, que ce soit les croyants, les kuffar, même les animaux. طيب كيف يربيهم؟ Comment Allah éduque ces créatures-là? بنعمه, par ses bienfaits qu'il leur donne. Les bienfaits qu'il donne à ces créatures sont une éducation pour eux. فالله عز وجل يربي عباده بالرزق يربيهم بالصحة يربيهم بالمال يربيهم بأنواع نعم الله عز وجل. الله éduque ses créatures par la subsistance qu'il leur donne, par la santé qu'il leur donne, par l'argent qu'il leur donne. Et cette chose-là est donnée à tout le monde, que ce soit les croyants et les kuffars, les mécréants, les associateurs, les ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal éduque toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Amma tarbiyatul khassa, quant à l'éducation particulière, falaysat illa li'ibadihi al-mu'minin wal-mu'ahidin. L'éducation particulière ne concerne que les serviteurs croyants. Alaykum salam wa rahmatullah. Monothéistes, ceux qui n'adorent qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Kayfa takun? Takunu bil hidayah wa bi ta'limihim wa bi tawfiqihim lil iman wal a'mal as-salihah was sabr 'inda al bala wash shukr 'inda an na'ma والاستغفار عند الذنب الى غير ذلك. Cette éducation est donnée aux serviteurs d'Allah, les croyants. Comment? Avec les adorations qu'ils font, la foi qu'Allah leur donne, la guidée vers laquelle Allah Azza wa Jalla les dirige, la reconnaissance qu'Allah leur donne quand il leur donne un bienfait, le demande de pardon pour les péchés, la patience durant l'épreuve. Et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses qu'Allah ne donne qu'aux croyants sont pour lui une éducation particulière. Quelle est la preuve qui nous montre que l'éducation d'Allah tabaraka wa ta'ala se divise en deux? L'éducation générale qui concerne toutes ses créatures et l'éducation particulière qui ne concerne que les croyants parmi ses serviteurs. Al-jawabu fi surati Taha. La réponse se trouve dans surat Taha. Il y a eu un dialogue entre Moussa et Pharaon. Moussa et Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon a dit à Moussa? قال من ربكما يا موسى رب. Pharaon dit: qui est votre seigneur, ô Moussa? À toi et Haroun, ton frère le prophète. من ربكما من الذي يربيكما. Qui est celui qui vous éduque, vous deux? Regardez la réponse de Moussa. Moussa est un prophète. Il sait qu'Allah éduque tout le monde de manière générale et les croyants de manière particulière. Il répond: qala rabbi alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. A'ta kulla shay'in khalqahu tarbiya 'amma. Manna Allah 'alayhim bin ni'am a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Hada al-mu'minin ila al-iman tarbiya khassa. Kana Musa yaqul lahu: ربي الذي رباني هو الذي ربى جميع الناس بنعمه ورب المؤمنين بهدايتهم. موسى répond: notre seigneur, mon seigneur pardon, est celui qui a donné à chaque créature, vraiment la traduction approximative, est celui qui a donné à chaque créature ses bienfaits puis qui a guidé. C'est comme si que Moussa lui dit: tu m'interroges sur celui qui m'a éduqué, sur celui qui est notre Seigneur. La réponse est: mon Seigneur, celui qui m'a éduqué, est celui qui vous a tous éduqués avec ses bienfaits et qui nous a éduqués, nous les croyants particulièrement, avec la guidée. Donc de ce verset, on tire les deux catégories d'éducation d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ses serviteurs. Puis il dit, et à travers la réponse ici, on voit Rabbi Allah. Mon Seigneur est Allah, alladhi rabbani, celui qui m'a éduqué. Celui qui m'a éduqué, c'est l'éducation particulière. Wa rabba jami' al-alamin, et qui a éduqué toutes les créatures, tous les mondes. Tous les mondes. Et ici, on parle de quelle éducation? Globale. Comment? Bi ni'mati, par ses bienfaits. Il dit jami' al-alamin, tout ce qu'on appelle les mondes, c'est-à-dire al-alamun, al-alamin. Al-alamin, c'est le pluriel de alam. Wa ma huwa al-alam? Qu'est-ce qu'on veut dire par alam? Alam kullu ma siwa Allah. Alam. Tout ce qui est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est appelé alam. Fa yuqal alamul jinn, alamul ins, alamul malaika, alamul bihar, alamul ashjar ila ghayri dhalik. On dit le monde des anges, le monde des djinns, le monde des montagnes, etc. Pourquoi ces choses-là, les ماذا هذه الأشياء سميت عالما? Pourquoi elles ont été appelées عالم? لأنها علامة تدل على الله عز وجل. فكل ما غير الله وكل ما سوى الله يدل على الله تبارك وتعالى. Pourquoi ces choses-là ont été appelées عالم? Car elles viennent du mot arabe علامة. Et le mot arabe علامة veut dire le signe. Ces choses-là ont été appelées عالم. Quand on dit رب العالمين, quand tu dis tous les jours رب العالمين, de quoi tu parles عالمين? Tu parles de tout ce qui est autre qu'Allah. Pourquoi ça a été appelé عالمين? Parce que ça vient du mot عالم. Qu'est-ce que c'est عالم? Ça vient de علامة. Qu'est-ce que le mot علامة? Le signe. Quel signe? Le signe qui montre l'existence d'Allah عز وجل. Et tout ce qui est autre qu'Allah est appelé عالم, car c'est un signe qui montre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. واضح? Tu savais ça quand tu as écouté la réponse? Il dit وَهُوَ مَعْبُودِ et c'est mon ma divinité, celui que j'adore. الَّذِي عَبُودُ c'est lui que j'adore. لِمَذَا? Il dit لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا je n'ai pas de divinité à part lui. Je n'adore personne d'autre que lui. Et là, il t'apprend comment répondre. Il t'apprend la conviction qui doit être présente dans ton cœur. Après qu'il t'ait parlé de la tarbiya, de l'éducation, de rububiya, de la seigneurie, de ses actes, il te dit « Wahua ma'boudi » et c'est ma divinité, c'est celui que j'adore. Pourquoi? Car si c'est le seul... Quelqu'un, il prend la chaise. Car si c'est le seul qui t'a créé et qui t'a pourvu, qui t'a donné tous ces bienfaits dont tu disposes et dont tu jouis, c'est donc le seul à mériter l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'istidlal bi tawhid al-rububiyya ala al-uluhiyya. Le fait de prendre pour preuve la seigneurie d'Allah pour justifier le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Il y a un chapitre sur ça. Vous inquiétez pas, inshallah ta'ala. Et dans le Coran, on retrouve beaucoup cette chose-là. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, dans le verset 21 de Surat al-Baqarah, on retrouve la parole d'Allah Azza wa Jal, « Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. » Adorez qui? Votre Seigneur. Donc pourquoi on doit l'adorer? Parce qu'il est notre Seigneur. Qui est notre Seigneur? Celui qui nous a créés, qui nous a donné la subsistance, qui nous a donné la vie, qui nous a donné toutes ces choses-là. Puis Allah Azza wa Jal va nous citer une série de preuves qui nous montrent qu'il est le seul à mériter l'adoration. Wa'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Celui qui vous a créé, vous, ainsi que ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc regarde, tu vois qu'Allah Azza wa Jal te dit, adorez Allah, car c'est lui qui vous a créé. Donc comme c'est lui le seul à vous avoir créé, vu que vous reconnaissez ça, vous devez aussi reconnaître qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et ensuite Allah dit, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا, celui qui a fait pour vous de la terre un lit, وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, et du ciel une construction, c'est-à-dire une construction élevée, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, et qui a fait descendre du ciel une pluie, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, avec laquelle il a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Tout ça ici, on parle de Rububiyya. On parle de Rububiyya. Ici, Allah Azza wa Jal dit, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Ici, Allah Azza wa Jal nous appelle à méditer sur sa créature en nous disant, celui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel une construction élevée. De ce ciel, il a fait tomber une pluie et avec cette pluie, il a fait pousser des fruits. Subhanahu wa ta'ala. هَذَا مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ اللَّهِ. Ça fait partie des plus grands signes d'Allah. Il fait ce qu'il veut avec sa création. Subhanahu wa ta'ala. À la fin du verset, Allah dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'assignez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. des égaux dans quoi? Et que vous savez quoi? Mal jawab. La réponse. Ne donnez pas à Allah d'égo. Dans quelle chose? Dans l'adoration. Alors que vous savez. Quelle chose? Alors que vous savez qu'il est le seul à créer toutes choses. Donc le fait de savoir qu'il est le seul créateur est une preuve qu'il est le seul à mériter l'ibada. Et le Coran est rempli de ça. Pour celui qui le lit, qui le comprend, le Coran il est rempli de ça. Plusieurs versets. Ya Yohannas, Udhkuru ni'matallahi alaykum. Ô vous les gens, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qu'est-ce qu'Allah dit après? لا إله إلا هو. Nulle divinité mérite digne d'être adorée à part lui. Pourquoi? Pour la chose qu'il vient de citer juste avant, qu'il est le seul créateur. Subhanahu wa ta'ala. Et ici, on vient de voir le premier asl, c'est-à-dire le premier fondement, qui est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va passer au deuxième, incha'Allah. وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا دِينُكَ. Et si on te pose la question, quelle est ta religion? فَقُولْ. Réponds. دِينِيَ الْإِسْلَامِ. Ma religion est l'islam. وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ. L'islam consiste à se soumettre pleinement à Allah par le monothéisme. وَلِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعِ. Et par son obéissance. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Et le fait de se désavouer de l'association et de ses partisans. De l'association et des associateurs. هَذَا تَعْرِفُ الْإِسْلَامِ. Ce qu'on vient de lire ici, c'est la définition de l'islam. La définition de l'islam. Quel est l'islam? C'est la soumission totale à Allah par le monothéisme. Par son obéissance et le fait de se désavouer de l'association et des associateurs. Ça, c'est la définition de l'islam. La soumission totale à Allah par le monothéisme. Par son obéissance et le fait de se désavouer de l'associateur et des associateurs. طيب. ما دينك؟ Quelle est ta religion? ما معنى الدين؟ Quel est le sens du mot din dans la langue arabe? Quel est le sens du mot din? Celui qui a la réponse, il lève la main. Masha'Allah. Masha'Allah. Personne n'a la réponse ou une ou deux personnes. Kalimatu din fi al-lughati al-arabiyya tadullu ala al-khudu' wa al-dhul. Le mot din dans la langue arabe, les savants ont expliqué que le mot din dans la langue arabe, c'est trois lettres, al-harf da, al-dal, wal-ya, wal-nun, ces trois lettres-là désignent le fait de se rabaisser, le fait de la dévotion, le fait de se rabaisser. Je n'ai pas le mot exact tout de suite là dans ma tête. Comment t'as dit? On va dire la servilité, voilà. On va dire la servilité. Ça se dit ce mot? L'asservissement. Mashallah, Hafid. L'asservissement, le fait de se soumettre à Allah, le fait de se rabaisser, de montrer à Allah qu'on est faible et qu'on n'a rien, et qu'Allah est le fort et qu'il a tout, subhanahu wa ta'ala. Mais dans la langue arabe, c'est le fait de se rabaisser, le fait d'être rabaissé devant quelque chose. Et c'est pour ça que la dette dans la langue arabe s'appelle ad-dayn. لماذا؟ لأن الذي عليه دين كأنه خاضع كأنه ذليل أمام صاحب الحق. Car celui qui est endetté est à l'image de quelqu'un qui est avili, qui est rabaissé tant qu'il n'a pas rendu son argent. Et c'est pour ça qu'on a appelé la dette dans la langue arabe dayn. Les mêmes lettres que le mot din. Pourquoi? Parce que celui qui est endetté, il est rabaissé devant son créancier, celui à qui il doit de l'argent. Ma ma'na din fi ad-din. Quel est le sens du din dans la religion d'Allah Azza wa Jal? C'est tout simplement de se rabaisser à Allah subhanahu wa ta'ala par ces choses-là qu'on vient de voir. Premièrement, en arabe, on dit al-istislam ou lillah. Avant de rentrer dans ça, c'est la raison pour laquelle min asma yawm al-qiyamah, parmi les noms du jour dernier, yawm al-din. Beaucoup de gens croient que yawm al-din, le jour de la religion, hada ghalat. Hada ghalat. Hein? C'est un nom pour le jour de la résurrection. Mais le mot din ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire yawm al-jaza. لماذا جزاء لأن فيه ذل الناس يكونوا لله عز وجل خاشعين أذلة يوم الذل لله عز وجل هذا يوم الدين. Pourquoi on appelle ça يوم الدين, le jour du din? Din ici ne veut pas dire religion, mais il veut plutôt dire le rabaissement. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Allah rétribuera ses serviteurs, et alors ils se rabaisseront tous devant Allah, comme Allah a dit dans plusieurs versets qu'ils seront rabaissés, avilis, humiliés devant Allah. Subhanahu wa ta'ala, chacun attendra son sort. Kullun minhum yantadhiru hukm Allah fi. Ils attendront tous le jugement d'Allah sur eux. Il dit wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. L'islam est la soumission totale à Allah par at-tawhid, par le monothéisme. Ici, le verbe qui est employé, c'est l'istislam. L'istislam, la soumission totale à Allah. Azza wa Jal. Al-istislam huwa tarku al-munaza'a wal-mukhalafa. Fa ka'anna alladhi yastaslimu lillah yatruku mukhalafata Allah wa munaza'ata al-anbiya wa yuqbilu 'ala Allah azza wa Jal. Al-istislam, la soumission ici, c'est le fait de délaisser, c'est pas la contradiction, mais le fait de refuser. Le fait de refuser de l'opposition. Le fait de refuser et de s'opposer à la vérité qui est venue. Quand une personne arrête de s'opposer, on le dit istaslam. C'est-à-dire, elle s'est soumise. وَلِذَلِكَ يُقَالْ istaslama للموت لما رَأَ حَوْلَهُ أَعْدَاءَهُ وَهُمْ سَيَقْتُلُونَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُدَافِعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ istaslama للموت تَرَكَ الْمُنَازَعَةَ. Donc, celui qui se laisse à la mort, qui se rend, barakallahu fi. On emploie ce verbe-là pour lui. On dit istaslama. Il s'est rendu, il a arrêté de s'opposer, il s'est rendu. C'est comme si que le musulman ne s'oppose pas aux ordres d'Allah. Bien au contraire, il se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, kayfa yastaslim? Par quoi il se soumet? Bima yasha? Bittiba al-hawa? Par ce qu'il veut, par ce que bon lui semble, par ses passions? La بتوحيد الله تبارك وتعالى. Non, mais plutôt par le monothéisme, par le fait d'adorer Allah seul, sans associer, le fait de vouer le culte à Allah sincère, subhanahu wa ta'ala. Et on va voir sur le chapitre sur le tawhid plus loin. والانقياد له بالطاعة. Et le fait de se soumettre à lui par son obéissance. Donc premièrement, on se soumet totalement à Allah tabaraka wa ta'ala par le monothéisme, le fait de n'adorer qu'Allah. Et ensuite, on se soumet à lui par le fait de mettre en pratique ses ordres et délaisser ses interdits. At-ta'a muwafaqatu amr Allah, amrillah 'azza wa jalla. Tarku al-mahdhur wa fi'lu al-ma'mur bih. C'est le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah et de délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Et le désavouement, le désaveu. Heureusement que tu m'as corrigé. Si je fais une erreur, il faut me corriger, il ne faut pas me laisser. Le désaveu de l'association et des associateurs. C'est-à-dire le fait de se désavouer de l'association et de s'en éloigner, de même que les partisans de l'association. Car l'islam ne consiste pas qu'à l'adoration d'Allah, Azza wa Jal, mais c'est aussi le désaveu de l'adoration d'autres qu'Allah et des adorateurs d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on peut le voir dans beaucoup, beaucoup et beaucoup de versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on va en citer un, incha'Allah. Al-bara'atu min ash-shirk. Al-bara'a hiya al-muba'ada fil asl. Lidhalika yuqalu an al-marid. عليكم السلام الذي يشفيه الله عز وجل بارئة لماذا لأن المرض ابتعد عنه. Le mot qui est employé ici, c'est al-bara'a, le désaveu. Al-bara'a, on a cité ce mot-là, pourquoi ? Parce que ça vient à la base du fait de s'éloigner. C'est pourquoi une personne qui est guérie par Allah d'une maladie, en arabe, on dit bari'a min al-marad. Il a été guéri de la maladie en employant ce verbe bari'a. Pourquoi ? C'est comme si on disait que la maladie s'est éloignée de lui. Donc on comprend le fait de s'éloigner de l'association et de se désavouer de l'association. Donc il n'est pas suffisant d'adorer Allah, mais il faut aussi s'éloigner de l'association. « La Buddha min al-bara'ati min al-shirk » Car celui qui adore Allah, mais qui adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala avec, n'est pas un monothéiste. « Laysa bimwahid » Pourquoi ? Allah a dit dans le Coran, dans le verset 256, le surat al-Baqarah, il dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَلَبُدَّ مِنْ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَهُوَ تَرْكِ الشِّرْكِ وَالْإِمَانِ بِاللَّهِ وَهُوَ التَّوْحِيدِ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَمَنْ تَرَكَ الشِّرْكَ وَأَقْبَلَ عَلَى التَّوْحِيدِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَعَمِلَ بِهَا. Allah dit, et celui qui s'éloigne, désavoue du tarout, on va expliquer dans le chapitre qui concerne ce mot-là, inshallah, et qui a la foi en Allah, ce sera alors accroché à l'anse la plus solide. Allez comme salam. Donc celui qui délaisse l'association et qui n'adore qu'Allah Azza wa Jal est celui qui s'est accroché à l'anse la plus solide. Les savants ont dit, dans le tafsir de ce verset, l'anse la plus solide ici, c'est la ilaha illallah. Ce qui veut dire que celui qui mécroit à l'association, puis qui croit en Allah seul, celui-là aura vraiment dit la ilaha illallah et l'aura vraiment mis en pratique. Donc le fait de se désavouer de l'association et de ses partisans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Awthaqu 'ura al-iman. L'anse la plus solide parmi l'anse la plus solide de la foi, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah. L'amour en Allah, le désaveu en Allah. L'alliance en Allah, le désaveu en Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le croyant ne doit aimer que ce qu'Allah aime. C'est ça qu'on appelle l'alliance en Allah. Il doit détester ce qu'Allah déteste. C'est ça qu'on appelle le désaveu en Allah. C'est ça la base même de la soumission à Allah. Subhanahu wa ta'ala. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Anas ibn Malik, « Thalathun man wajada man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. » Il y a trois choses qui, si elles sont réunies chez la personne, celle-ci goûtera à la douceur de la foi. Premièrement, il dit أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Premièrement, qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque d'autre. Deuxièmement, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah. Troisièmement, أن يكره أن يعود في الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Qu'il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. L'imam al-Nawawi rahimahullah, dans le commentaire de ce hadith, a dit « هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ. » Ce hadith est un fondement énorme parmi les fondements de la religion. Pourquoi ? لِأَنَّ فِيهِ الْحُبَّ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ. Car il y a dans ce hadith l'alliance et le désaveu en Allah, le fait d'aimer et de détester en Allah. Tabaraka wa ta'ala. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, la yuhibbuhu illa lillah. Il n'aime une personne que pour Allah. C'est-à-dire, al-mu'min. Il aime le croyant. Wa idha ahabba al-mu'min la yuhibbuhu illa lillah. Ma'na dhalika annahu yakrahu al-kafir. C'est-à-dire qu'il aime le croyant en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il ne l'aime que pour Allah. Et la seule personne qu'on ne peut aimer que pour Allah, c'est le croyant. Quant à la personne qui n'est pas croyante, on ne peut pas l'aimer pour Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Innahu la yuhibbul kafirin ». Certes, il n'aime pas les mécréants. Ici, on ne parle pas du fait d'être injuste envers eux. Ne pas mélanger les choses. Mais on parle de l'amour du cœur pour la personne, pour sa religion, pour sa foi qu'elle a. Pour cette chose-là, on aime ceux qui ont la foi en Allah Azza wa Jalla. Ceux qui n'ont pas la foi en Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas les aimer. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi » C'est-à-dire, ne sois l'ami que d'un croyant et que ne mange ton repas qu'un pieux. Et si on regarde le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons radiyallahu anhum, on verra que ceux qui étaient amis entre eux n'étaient que croyants et qu'ils n'avaient pas d'amis qui n'étaient pas croyants. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec eux, commercer avec eux et toutes ces autres choses. Ce n'est pas ça qui est voulu. Mais l'amitié, c'est l'amitié en Allah. Et l'amitié en Allah n'a lieu qu'avec l'iman billah, qu'avec la foi en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Mumtahana, l'éprouvé, au sujet du prophète Ibrahim alayhi salam, concernant le fait d'aimer et de se désavouer pour Allah Azza wa Jal, « قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Vous avez certes un modèle, un bon modèle, un bon exemple à suivre. « فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ » En la personne de Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Les savants du tafsir ont dit « مِنَ الْأَنْبِيَا » Parmi les prophètes. « إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ » Inna bura'a minkum, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous. Wa mimma ta'buduna min dunillah, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Kafarna bikum, nous mécroyons en vous, c'est-à-dire nous sommes convaincus que vous êtes des kuffars, des mécréants. Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Et s'est installé entre nous l'animosité pour toujours, jusqu'au jour où vous aurez la foi en Allah seul. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ce verset, puisqu'il nous dit qu'en la personne d'Ibrahim, il y a un exemple à suivre, nous enseigne la voie à suivre concernant le fait d'aimer ou non une personne. C'est la foi en Allah. La personne qui a la foi en Allah est aimé par le croyant. La personne qui n'a pas la foi en Allah est détestée par le croyant. Cet amour pour Allah, c'est une qurba, c'est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah. Et ce désaveu pour Allah, c'est une qurba, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah, Azza wa Jal. Et dans l'islam, il y a ces deux choses. Al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah. L'amour pour Allah, Azza wa Jal, et le désaveu pour Allah, عز وجل. فالمؤمن له المحبة والكافر له البغض. Le croyant a l'amour de par sa foi et le kafir n'a pas l'amour de par sa mécréance. ثم المؤمن محبة الإنسان للمؤمن متفاوتة بحسب إيمان الإنسان. L'amour que la personne a pour une autre qui est croyante, bien sûr, dépendra de la foi de cette personne. Plus la personne a des bonnes actions, et plus la personne obéit à Allah, Azza wa Jal, et suit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus elle méritera l'amour de son frère. Et plus la personne désobéira à Allah, Azza wa Jal, plus l'amour de son frère diminuera dans son cœur pour elle. Mais il restera toujours la base de l'amour. Car cette personne a dit « La ilaha illallah ». C'est la raison pour laquelle tu préfères le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quiconque parmi les gens. Parce que c'est lui qui a eu la foi la plus complète. Après lui, tu préfères les compagnons, radiyallahu anhum, car ils sont ceux qui ont eu la foi la plus complète. Et parmi les compagnons, tu préfères Abu Bakr, radiyallahu anhum, parce que c'est lui qui a eu la foi la plus complète. Et ceux qui n'ont pas eu la foi, tu ne les aimes pas. Parce qu'Allah ne les a pas aimés et les compagnons ne les ont pas aimés. Donc à partir de là, on voit que l'islam nous enseigne qui aimer, comment aimer. Donc, croire qu'il faut aimer tout le monde, c'est faux. Il faut aimer ce qu'Allah aime. Et il faut détester ce qu'Allah déteste, sans rajouter et sans diminuer. Il ne faut pas aimer tout le monde. Il faut aimer ce qu'Allah aime. Il ne faut pas détester tout le monde. Alaykoum salam. Il faut détester ce qu'Allah déteste. Allah déteste ceux qui commettent les péchés. Et donc, en fonction de leurs péchés, l'amour de la personne va diminuer pour son frère. Alaykoum salam. Et on s'arrête ici, inshallah ta'ala. Et on reprend samedi prochain, inshallah. ونسأل الله عز وجل يفقهنا في الدين ويصلح قلوبنا وأعمالنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك